Zordi, hey, ça va? Allez, on salue les Marseillais, les gens du Nord, on salue ouais, tout le monde. 13h, les infos, enfin ma France, hein, c'est tout de suite, c'est avec Wendy Bouchard.
Ma France, sur France Bleu, Wendy Bouchard.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Ma France avec à la une des ministres qui donnent leur première ligne d'action. Gérald Darmanin veut repenser le modèle des prisons pour les courtes peines, on y vient. Yannick Neuder, lui fraîchement arrivé au ministère de la Santé, est attendu de pied ferme par les professionnels face à la situation notamment des services d'urgence. À Mayotte, la solidarité continue avec une réunion interministérielle en ce moment pour la reconstruction de l'île. C'est la mission numéro un du nouveau ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Et puis au cœur de vos régions, dans les Landes, ce matin, les adieux à Maïté, inhumée dans son village natal. La tradition des bains de Noël, nous sommes en Alsace. Et le tourisme qui a la côte, sur la côte d'Azur, nous sommes à la Ciotat. 13h15, on parle des animaux avec Christophe Marie, qui avec la fondation 30 millions d'amis a accueilli Paul Watson à Paris le week-end dernier. Le bilan du combat contre la maltraitance animale de l'année, les grands enjeux à venir. Il nous éclaire, là encore, en direct sur France Bleu. Et dans Ma France, en attente donc des annonces de Manuel Valls sur la reconstruction de l'île, on vous décrit la solidarité qui s'organise entre la métropole et Mayotte, avec cette grand-mère habitante au nord de Laval et qui s'envole pour l'archipel le 31 décembre. Elle ira s'occuper de sa petite fille Maëlle, un bébé né 3 jours après le cyclone dans des conditions que vous imaginez dantesques. Le nourrisson et ses parents manquent de tout et la distance était pour elle trop dure à supporter. Martin Cotta.
Si l'accouchement s'est bien passé dans l'hôpital de Mamoudzou, c'est le retour à la maison, ou plutôt ce qu'il en reste, qui est compliqué. La fille de Françoise Savigny, son gendre et sa petite fille d'à peine une semaine vivent dans un conteneur.
Donc ils sont couchés sur leur matelas dans leur conteneur, le bébé entre eux, l'autre petite bien sûr à côté aussi, de 4 ans. Et puis après, pour les repas, c'est le feu de bois, manger des boîtes de conserve.
Des conditions rudimentaires, Françoise Savigny ne supporte plus être loin d'eux.
Ils ont besoin d'aide, besoin de beaucoup de choses en fait. Tout le matériel de cuisine, il n'y a plus de chambre pour l'enfant, pour les enfants, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien. Plus de vêtements.
La grand-mère emportera fin décembre avec elle dans l'avion une tente pour 6 personnes, beaucoup de nourriture, des couches aussi pour sa petite fille. Dans ce chaos, la Mayennaise arrive à avoir quand même des nouvelles régulières de sa famille.
Quand ils peuvent me joindre, me contacter, ils sont avec un groupe électrogène de temps en temps qui fonctionne parce qu'il n'y a pas non plus de gasoil pour les groupes électrogènes. C'est grosse galère.
Françoise Savigny lancera prochainement une cagnotte en ligne pour récupérer des dons. Cette habitante de Louverné veut aussi trouver un local en Mayenne pour que les gens puissent donner du matériel.
Et des dons financiers qu'attendent toujours, vous le savez, la Fondation de France qui représente des centaines d'associations, notamment le Secours Populaire. Au gouvernement, le nouveau tandem police-justice avec deux ministres républicains, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, va faire parler de lui hier pour son premier déplacement. Le nouveau garde des Sceaux s'est rendu au tribunal d'Amiens, mais aussi dans l'Oise, au centre pénitentiaire de Liancourt. Il l'a redit, son objectif est une justice rapide, plus ferme. Et pour cela, Gérald Darmanin souhaite qu'il y ait un peu plus de moyens. Il a aussi envisagé le problème de la surpopulation carcérale face au manque de prisons, de places de prison, avec une proposition, construire justement des prisons plus petites, plus humaines, sans barbelés, sans miradors pour les courtes peines. Et c'est une annonce bien accueillie ce matin par le syndicat de la magistrature, mais aussi par la contrôleuse des lieux de privation de liberté. Écoutez Dominique Simoneau.
Il y a des tas de pays européens qui pratiquent ces petites prisons ouvertes. Et nous, comment être contre le fait que, au lieu de construire ces énormes paquebots que sont les prisons actuelles, qui sont ingérables et surbondées, on construise des petites unités en centre-ville, sous les yeux des citoyens. Vous voyez, parce que cette façon de construire les prisons hors les villes, très loin de tout, dans des no man's land, ça donne pas de très bons résultats. Or, qu'est-ce qu'on attend d'une peine? Qu'elle punisse? Mais bien sûr, tout le monde est d'accord, c'est normal de répondre de ses actes, mais punis dans des conditions normales. Et la façon dont on traite les gens à l'intérieur, elle rejaillit forcément sur la façon dont ils se conduisent à l'extérieur.
Adam. Dominique Simonneau, contrôleuse des lieux de privation de liberté. Autre sujet sur lequel le gouvernement devra faire ses preuves, la politique de santé et l'accès aux soins. Comment sortir les urgences et les hôpitaux publics de la crise? C'est une lourde tâche pour le 9e ministre de la Santé depuis 2017, le cardiologue Yannick Noether, alors que les professionnels de santé ont vécu une année de plus, une année difficile, en particulier aux urgences. Au-delà des promesses, ils veulent désormais des actes. Mathias Vargon est chef des services des urgences, justement, en Seine-Saint-Denis.
On avait dit que toutes les urgences seraient désengorgées fin 2024, ça n'est absolument pas le cas. Probablement parce que les patients ne trouvent pas de médecin de ville, hein, le désert médical s'est étendu, et on n'a pas développé de solutions alternatives comme les infirmières de pratique avancée ou les kinés en direct, par exemple. Par ailleurs, on a énormément de mal à embaucher et à garder le personnel. Ce sont des métiers difficiles, qui sont exigeants, qui demandent du temps et un engagement, et ça ne correspond pas exactement à ce que propose la société actuellement. Et travailler la nuit, travailler le week-end, ça n'est plus accepté comme mode de travail. Donc c'est un gros problème pour l'hôpital public. Donc pour 2025, ce que j'aimerais bien que le ministre fasse, s'il a le temps de le faire, c'est commencer à réorganiser le système de santé. On sait que dans d'autres pays, on a pu étaler la charge sur des infirmières, sur des kinés, sur des pharmaciens. Il faut être aussi moderne que dans d'autres pays et être moins corporatiste.
Dans l'actualité encore, il est 13h05. Après les peines prononcées au procès de l'assassinat de Samuel Paty, on apprend que le père de la collégienne à l'origine du mensonge visant le professeur fait appel de sa condamnation. Brahim Chnina a été condamné la semaine passée à 13 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes. Nous n'oublions pas non plus sur France 2 une catastrophe mondiale. Il y a tout juste 20 ans, un tsunami avec des vagues de 35 mètres de haut lancées à plus de 800 km/h qui balayaient les côtes d'une dizaine de pays. 220 000 personnes sont mortes englouties. L'île de Sumatra en Indonésie est la plus touchée, mais aussi l'Inde, le Sri Lanka ou la Thaïlande. 95 Français décèdent dans ce drame consécutif à un tremblement de terre de magnitude 9 avec une faille de 1200 km de long, du jamais vu, de mémoire d'homme. Et ce matin, Sonia Gobri, c'est la ville indonésienne de Banda Aceh qui a donné la première cérémonie de commémoration.
Cette sirène, longue de 3 minutes, a retenti ce matin à l'heure exacte où la Terre a commencé à trembler, ce 26 décembre 2004. Un séisme de magnitude 9,1 au large de la côte ouest de l'île indonésienne de Sumatra, puis un mur d'eau, d'énormes vagues dévastatrices qui balaient une dizaine de pays, Indonésie donc, Inde, Thaïlande ou encore Sri Lanka, où se trouvait Sylvia. 20 ans après, cette Française n'a pas oublié.
J'ai regardé vers la mer. Et j'ai vu ce qui arrivait, cette espèce de masse d'eau marron, vraiment dégueulasse, quoi, poison arrive et alors là, il casse tout. C'est-à-dire que le petit édifice auquel j'étais accrochée, tout ça, ça disparaît. Et là, j'ai une espèce de brouhaha, un truc assourdissant. Je sais pas combien de temps ça dure. Mais ça dure un certain temps.
C'était le tsunami le plus meurtrier de l'histoire. 20 ans après, aujourd'hui, des cérémonies religieuses, des veillées sur les plages sont organisées avec des survivants et des proches de victimes. Certains se sont aussi retrouvés pour pleurer ensemble autour de l'une des nombreuses fosses communes de Banda Aceh en Indonésie, où sont enterrées 14 000 victimes du tsunami.
Un drame et un sujet de mémoire à retrouver également sur francebleu.fr. Et puis à la une de ce 26 décembre, les médaillés du journal L'Équipe. C'est une tradition. 4 champions des champions 2024. Le quotidien sportif sacre la paracycliste Marie Patouillet, la triathlète Cassandre Beaugrand et pour la deuxième année consécutive, le prodige tricolore de la natation, bien sûr, Léon Marchand avec ses 5 médailles olympiques, ainsi qu'Alexandre Léauté qui lui aussi a brillé cet été à Paris avec 2 médailles d'or, 2 médailles de bronze en paracyclisme. C'est ce qu'on appelle, Fanny Lechevestrier, un sacré athlète.
Oui, c'est simple. À chaque fois que vous croisez Alexandre Léauté, le jeune homme de 24 ans affiche un sourire jusqu'aux oreilles. Pour le Breton, encore la tête dans les étoiles, pas de doute. Il y a eu un avant et un après Paris 2024.
C'est une année magique pour moi. C'est vrai que je suis pas toujours descendu de mon petit nuage. Franchement, on est dans une autre dimension. On nous reconnaît plus dans la rue. Enfin, on est vraiment considérés comme des athlètes maintenant et je pense que c'est ça la plus grande victoire.
Une reconnaissance pour les champions paralympiques qui se traduit de manière très concrète pour Léauté avec l'arrivée de nouveaux moyens financiers.
Voilà, sponsors arrivent, il y a des gens qui veulent nous aider maintenant, on est vraiment plus mis en lumière. J'ai pas trop l'habitude de tout ça, donc va falloir que j'apprenne, mais c'est hyper intéressant, ouais.
Avec à la clé un nouveau défi pour l'enfant de Saint-Caradec, bien décidé à ne pas rester enfermé dans la case handicap.
Je me lance un nouvel objectif en 2025, ça va être de faire des courses avec des valides au niveau élite. essayer de performer, de faire des résultats. Donc je me bats de pression, on verra bien ce que ça donne. J'ai rien à perdre de toute façon, donc on verra si le directeur sportif me fait confiance.
Une nouvelle étape déjà bien amorcée, puisque le cycliste a pu s'entraîner au début du mois en stage à Calpe en Espagne avec l'équipe professionnelle de la Groupama FDJ.
Merci Fanny. Et puis dans le trophée Jules Verne, Thomas Coville et l'équipage de Sodebo Ultime 3 ont franchi cette nuit l'équateur avec 15 heures d'avance sur le temps de référence du trophée Jules Verne qui est aujourd'hui détenu par Francis Joyon.
Ma France, l'actu sur France Bleu, au cœur des territoires.
Dans Ma France, on vous raconte aussi l'actualité près de chez vous et nous sommes en Gascogne, à Rion-des-Landes, où ce fut ce matin le temps d'un dernier hommage à Maïté, décédée samedi dernier à 86 ans. Hommage dans l'église Saint-Barthélemy avec le chanteur basque Michel Etcheverry qui a entonné ce matin la dacquoise devant un millier de personnes venues lui rendre hommage, des visages marqués, des gorges nouées, sa petite fille qui a pris la parole pour saluer sa mémoire et qui a demandé à l'assistance de manger et de boire en son honneur. Parmi les personnalités landaises qui ont salué le parcours, la générosité de Maïté et sa gouaille, le chef étoilé Jean Cousseau à la tête du relais de la Poste à Magesque, Maïté pour lui restera à jamais associé aux Landes.
Maïté, c'est une personne qui n'a jamais coupé les racines des Landes, voilà. Alors, on a critiqué un peu sa cuisine, qui était soi-disant lourde, soi-disant voilà, dépassée, mais pas du tout. Chez Maïté, on mangeait des produits de la ferme, et Maïté n'allait pas chercher bien loin ce qu'elle avait sur place. C'est un petit peu la façon de cuisiner qu'on partageait ensemble. J'allais manger chez Maïté, je mangeais la garbure et le confit de canard, parce que je savais que c'était avec des légumes d'ici, que le confit et le canard étaient d'ici, qu'elle cherchait, qu'il avait ses fournisseurs, qu'elle avait ses éleveurs et ça n'a pas de prix. Quand vous mangez chez Maïté, vous saviez que vous étiez dans les Landes.
Maïté, les obsèques se sont déroulées ce matin, elle sera inhumée donc à Rion-des-Landes, son village natal. Vos sapins sont peut-être encore bien fringants, les autres ont fait leur temps dans la chaleur des maisons ou des appartements. Et on ne se débarrasse pas, cela dit, des sapins n'importe où. Vous savez qu'il est interdit de les jeter dans la rue. Pour le recyclage, renseignez-vous, c'est le plus simple au fond auprès de votre mairie. Illustration pour France Bleu Garlozère, dans Ma France de Grégory Julien.
Oui, pour leur sapin, il y a ceux qui ont choisi de ne plus s'embêter.
Ah bah il est en plastique, donc on le range dans le petit sac pour l'an prochain.
On le met dans un placard, c'est un sapin qu'on peut réutiliser.
Eh bien écoutez, c'est un artificiel, alors je le déplie et je le renferme à sa place et je le ressortirai l'année prochaine. D'autres, comme Sylvia, ont un vrai sapin, mais elle avoue avoir un peu de mal à s'en débarrasser après les fêtes.
C'est pas toujours évident, ouais, de trouver des points de recyclage, ce qu'on appelle. Dans les petites villes, en plus, moi je suis à Sommières, donc c'est pas évident. Il faut chercher, et quand on cherche, on trouve en général. Donc ça devrait bien se passer.
L'année dernière, la ville de Sommières a mis en place 5 lieux de collecte. Des parcs à sapins qu'on trouve aussi dans la métropole de Nîmes. Il y en a 91 un peu partout dans l'agglomération. Mais pour SAF, ça reste assez peu pratique.
Suivant où là où on habite, c'est pas évident. Mais bon, ils essayent de faire au mieux, quoi. C'est pas très cool pour les voitures. Tout le monde n'a pas un camion. Donc à chaque fois, c'est compliqué parce que c'est de la manutention, puis on dégueulasse la voiture et voilà quoi.
Pour autant, hors de question pour lui de laisser son sapin sur le trottoir. Jérôme Nimois est lui aussi du même avis.
On le met dans les bacs, oui. Bien sûr. Non, on va pas le jeter comme ça dans la rue. Certainement pas.
L'année dernière, 4800 sapins ont été collectés dans l'agglomération de Nîmes.
En Alsace maintenant, c'est une tradition née à la fin des années 90. La baignade de Noël dans les eaux glacées de la Ballastière. Nous sommes à Bischheim, au nord de Strasbourg. Hier, ils ont été une quarantaine à se jeter dans une eau à 6 degrés. On va dire les plus courageux ou les plus fous, sous les yeux d'Olivier Vogel.
Chantal grelotte en maillot de bain sur la plage de la Ballastière.
J'hésite. J'attends. Non mais on va essayer, hein. Mais je ne vais pas mettre la tête dans l'eau. Hein.
Et à 10h30 pétante, l'eau est à 6 degrés, baignade express, Chantal frétille de bonheur, son bonnet de Père Noël sur la tête.
Ça pique un peu, mais ça va. Hein. J'imaginais pire encore, mais c'est bien.
Ils ont été une quarantaine à se jeter à l'eau.
Je pensais que les sorties, que j'allais grelotter. Et finalement, non, je crois que j'ai retourné.
Je suis rouge, j'ai le corps qui pique de partout. C'est vrai que la première minute était difficile à franchir, mais une fois qu'on respire, on essaie de pas crier. Et puis finalement, on s'habitue.
Quant à Christian...
Toto pour les intimes. Et les orteils qui sont restés dans l'eau. Non, mais c'est agréable. Avec ce qu'on a picolé hier soir.
Le coordinateur de cette baignade de Noël, c'est François, 76 ans.
On vient juste pour fêter la fin de Noël. On mange le reste de Bredele. On boit les coups, on reste pas longtemps dans l'eau. Donc mise à l'eau à 10h30, à 10h32 on est tous sortis, et on finit Noël.
1, 2, 3, Joyeux Noël!
Reportage illustré de photos glacées sur France Bleu, alsace.fr bien sûr. Et puis sachez-le, en région parisienne, 2024 fut l'année la plus pluvieuse depuis 24 ans. De quoi donner des grandes envies de soleil, un Graal recherché par beaucoup en cette fin décembre. Voilà pourquoi les hôtels de Provence sont particulièrement prisés par les franciliens, les habitants de la région Rhône-Alpes, mais aussi les étrangers, américains ou chinois. Dans l'ambiance du Noël provençal, nous avons la Ciotat qui fait le plein et c'est un reportage de Philippe Bocara.
Et sur le port des terrasses bien pleines, ce couple arrive des Deux-Sèvres, vous savez, la région de Niort. Katia et Christophe sont venus passer quelques jours au
soleil, ouais, surtout, parce que nous on vit 3 mois de l'année dans le brouillard. Donc ça fait du bien même l'hiver, surtout l'hiver.
Le petit vin chauffe pour profiter du cadre qui est quand même pas trop mal.
La belle vue, impeccable.
Dans les rues commerçantes du centre ancien des Ciotadins, mais aussi de nombreux touristes pour le plus grand bonheur de Marine Dubois de la boutique de décoration Kelpo.
On a pas mal d'habitués déjà parce que ça fait 4 ans qu'on a la boutique, qui reviennent chaque année.
Alors beaucoup dans la famille pour ces fêtes, mais aussi dans les hôtels et les locations meublées de tourisme. Camille Lhomme en gère une douzaine ici.
On est complet en hébergement comme on peut être complet sur des week-ends fériés au mois d'août, au mois de juillet. Après, on a une clientèle qui est principalement française.
Beaucoup de la région Rhône-Alpes, mais aussi des Parisiens et des Parisiennes, Emma et Alban.
On dirait qu'on n'est plus en France, donc c'est agréable. Les gens râlent moins, ils sont plus souriants. Et puis c'est plus agréable l'ambiance par rapport à Paris. Juste la détente, prend le temps de prendre le temps. On se pose.
Voilà, on se pose. Notez que sur les routes des vacances, vous allez vous poser en particulier demain et samedi. Ce seront les journées les plus chargées dans le sens des départs et des retours. Aujourd'hui, c'est classé orange dans le sens des départs comme dans celui des retours en Ile-de-France. Il est 13h16. Merci d'être à l'écoute de France Bleu.
Ma France sur France Bleu. Wendy Bouchard.
Et dans Ma France, on partage souvent des histoires d'hommes et d'animaux, car c'est un lien qui nous raconte sur la manière que nous avons de coexister avec d'autres espèces, de partager la terre, la mer, les airs, sans propriété ni spoliation. Avec nous, Christophe Marie. Bonjour Christophe.
Bonjour.
C'est le guide de votre vie, ce lien avec les animaux. Vous qui êtes passé de la Fondation Bardot à la Fondation 30 millions d'amis et qui partagez toujours l'amitié de Brigitte, ça vous a façonné finalement depuis tout jeune?
Depuis tout jeune, oui. Alors c'est difficile à expliquer parce qu'en fait, c'est pas véritablement un choix. Quand on s'investit dans ce combat, c'est comme une nécessité, une lutte contre l'injustice. Oui. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a suivi, plus de 30 ans à la Fondation Brigitte Bardot et là, depuis quelques mois, à la Fondation 30 millions d'amis.
Un combat et un parcours que vous racontez dans votre livre Animaliste. Mais si vous êtes avec nous, c'est pour à la fois dresser le bilan de l'année 2024, regarder les perspectives 2025 et parler des choses qui nous ont réjouis. Notamment, vous étiez samedi, place de la République, et vous avez fait partie d'une assistance très nombreuse à accueillir le retour en France, le miracle de Noël. Ouais. Paul Watson est rentré, il retrouvera donc sa famille.
Voilà, on finit sur une bonne nouvelle, et puis une bonne nouvelle double, parce que la France a eu un vrai rôle dans cette libération. Il y a eu un travail de la diplomatie française auprès des instances danoises, puisque Paul Watson était emprisonné au Groenland, qui dépend directement du Danemark. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle aussi dans ses amitiés, puisque là, vous évoquiez mon parcours à la Fondation Brigitte Bardot. C'est vrai que lorsque Brigitte Bardot s'est rendue en 2006 à Ottawa pour redénoncer la chasse aux phoques qui reprenait dans des grands volumes, eh bien Paul Watson a été le seul d'ailleurs à venir à nos côtés dénoncer ce qui se passait au Canada. Mmh. Et c'est vrai que je le raconte un peu dans ce livre Animaliste. Il y a eu beaucoup de complicité, beaucoup d'actions communes. Moi-même d'ailleurs, j'ai participé à deux missions aux îles Féroé avec Sea Shepherd pour dénoncer les massacres de globicéphales.
En juin 2023, 446 cétacés massacrés sur les îles Féroé au nom d'une tradition qui est en fait un massacre.
C'est uniquement un massacre, puisque la première mission que nous avions menée en 2010, en fait, on avait pu démontrer que les animaux tués étaient rejetés en mer. Il y avait des espèces de cimetières sous-marins, si on peut appeler ça comme ça, où les animaux étaient rejetés sans être même consommés. Donc effectivement, ça fait partie des traditions qui sont basées sur la cruauté et le sang, mais qui sont totalement invraisemblable au jour, enfin à notre époque.
Oui, vous parlez de la complicité de Paul Watson et sa participation à dénoncer aussi les atrocités avec Brigitte Bardot, des amis de 50 ans, lorsqu'elle elle met le pied sur la banquise la première fois fin des années 70, il est là déjà. Ouais.
Voilà, à l'époque il était encore avec Greenpeace. D'ailleurs, il m'avait raconté chez Brigitte Bardot, on avait discuté de son départ de Greenpeace et c'était associé aussi à la venue de Brigitte Bardot sur la banquise. Parce qu'il avait refusé l'accès à l'hélicoptère à un responsable de Greenpeace qui lui en a voulu et qui l'a exclu ensuite de l'organisation. Bon, bref. Oui. En tout cas, il était très content parce que c'est ce qui lui a permis de créer une structure qui ressemblait davantage à son combat.
À son combat. Il n'y a pas un bateau qui s'appelle Brigitte Bardot?
Alors, il y a eu un trimaran, effectivement, Brigitte Bardot,
le
mais
bébé,
qui a été
ça lui ressemble. Ça lui ressemble. Celle qui fonce, vous, qui dites aimer les animaux et volonté de leur foutre la paix. C'est une phrase attribuée à Reiser qui illustre ce qui vous anime. Au fond, vous ne cherchez pas à convaincre certains réfractaires à aimer les animaux, mais simplement à respecter leur dignité, leur bien-être.
C'est exactement ça. Quand tout à l'heure, je parlais d'être animé contre... avoir un besoin de réagir à l'injustice, c'est exactement ça. On n'a pas besoin d'aimer les animaux. Simplement, on est face à des violences qui leur sont faites au quotidien et sur lesquelles on doit réagir. C'est pour ça que je suis très content d'avoir rejoint la Fondation 30 millions d'amis, parce que c'est le combat aussi de cette fondation.
Bien sûr, vous assurez la direction des affaires nationales et européennes, une fondation qui fêtera ses 30 ans l'an prochain, fondation d'utilité publique. Et vous soldez là une année compliquée, chaotique politiquement. Ça a eu des répercussions sur la cause animale.
Ah bah, totalement, parce qu'en fait... Là, par exemple, au 1er janvier 2024, vous savez, il y a une interdiction qui a été prise pour la vente de chats et de chiots.
Oui.
Dans les animaleries, mais en fait ça a été contourné parce que le texte était assez mal fichu, et ce qu'il y a, c'est que les décrets de sanctions n'ont pas été publiés, et puis ce qui s'est développé, c'est la vente click and collect, c'est-à-dire que les animaleries vendent en ligne et avec un retrait de la marchandise,
comme un objet,
alors véritablement comme un objet en animalerie.
Incroyable. Donc ça, par exemple, c'est une loi largement perfectible.
Perfectible, et c'est pour ça qu'on a rencontré il y a quelques jours Aurore Berger, justement, qui est passée au gouvernement. Donc ça fait partie de ces chaises musicales qui font que c'est très difficile de pouvoir aller au bout des choses pour faire évoluer, renforcer les réglementations, parce que ça change d'une manière permanente. Mmh. Cette année, rien qu'en 2024, on a eu quand même 4 premiers ministres, on a eu 4 gouvernements, on a eu une dissolution, on a eu les élections européennes.
Et ça chamboule tous les secteurs.
Ça chamboule tous les secteurs, et notamment la question animale.
Avant de regarder les autres grands dossiers pour 2025 et ce qui anime la Fondation 30 millions d'amis, il y en a beaucoup. Plusieurs histoires que les auditeurs de France Bleu ont pu suivre. On parle beaucoup d'animaux sur notre réseau. Des chiens adoptés dans des écoles, par exemple en Charente-Maritime, et qui sont à la fois des mascottes et des animaux d'apaisement. Des chats stars, des commissariats de police adoptés eux aussi, comme il y a quelques jours, Doudou, accueilli par la brigade de recherche de Blaye en Gironde. Et puis, une histoire de sanglier, de lait plus précisément, qui fait le tour de France. L'histoire de Riette, et on va en parler avec vous. Bonjour Eva Kling.
Bonjour.
Vous avez enquêté sur Riette, c'est le sanglier qui fait le plus parler de lui depuis quelques semaines, à Chaource dans l'Aube, Eva.
Ce sanglier était tout jeune quand Élodie l'a recueilli il y a un an. Elle l'a trouvé près des poubelles de son écurie. Depuis, Riette vit au milieu des chevaux, des chiens et des humains, alors impossible de la relâcher dans la nature.
Même dans un parc, elle sera très très malheureuse. Vous savez, il y a un sanglier qui a été retiré de sa maison et mis dans un parc où il est très malheureux. Elle, ce sera encore pire parce qu'elle est encore plus imprégnée. On avait essayé de la relâcher par le passé. Elle avait défoncé le grillage pour revenir à la maison. Aujourd'hui, la plus belle des choses qui puisse arriver, c'est qu'on lui fiche la paix et qu'on la laisse finir ses vieux jours à la maison, tout simplement.
Mais Élodie n'a pas l'agrément pour détenir la laie chez elle et le dossier judiciaire patine.
Il y a des fois, j'ai envie de baisser les bras parce que j'en ai un petit peu marre, mais ce combat, j'espère qu'on va le gagner avec toute la France derrière moi.
Et oui, ça lui donne de l'énergie pour se battre. Tenez-vous bien, les pétitions de soutien à Riette ont déjà récolté 300 000 signatures. Élodie, elle en est la première surprise.
En fait, il y a 3 pétitions qui tournent et on a même dépassé les 300 000 signatures. Donc il y a réel engouement de la part de la population. Et je pense qu'aujourd'hui, Riette, c'est le sanglier de tous les Français.
Élodie et Riette peuvent aussi compter sur le soutien de célébrités comme Julien Courbet et Brigitte Bardot.
Merci Eva. Et la Fondation 30 millions d'amis, comment elle accompagne ce dossier, cher Christophe?
Alors, Marie. On est intervenu auprès de la préfecture et du procureur de justice parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une... Alors, on ne tient pas à encourager évidemment les gens à récupérer des animaux sauvages, mais là, on est dans une situation où de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Les parcs, il n'y en a pas. Et l'animal est tellement imprégné qu'il ne peut pas être relâché. Donc... on voit bien, cette personne a des conditions de garde qui sont tout à fait satisfaisantes. Il faut lui accorder l'autorisation de détenir Rillette.
Ça relève bien de la préfecture.
Oui, ça relève de la préfecture.
Mais vous pouvez faire pression.
On fait pression parce que en fait, l'autorisation, elle existe et elle est donnée à d'autres propriétaires, enfin d'autres personnes qui ont recueilli des animaux comme ça. Mmh. Et je vois pas pourquoi, dans ce cas précis, il n'y aurait pas d'autorisation. Donc on appelle effectivement la préfecture à agir parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est ça aussi le problème. Donc si c'est de dire on va le mettre dans un parc agréé, en fait, les refuges sont saturés. Alors les seuls parcs à sangliers qui existent, qui pourraient en prendre, c'est pour en faire du pâté au final. Donc c'est pas vraiment l'objectif. Non, mais là, il faut être simplement faire preuve de bon sens et d'empathie. Cet animal a été récupéré, tête totalement imprégnée, ne peut pas être lâché, qu'on laisse l'animal et la personne qui s'en occupe tranquille.
Vous avez confiance dans ce dossier? 300 000 signatures et la pétition aidant, Christophe Marie, ça fait en général bouger les lignes?
Oui, ça peut faire bouger les lignes, en tout cas, on l'espère.
Merci en tout cas, voilà ce dossier que l'on suit. Merci Eva d'avoir enquêté aussi avec Elodie, sa propriétaire, dans l'Aube aujourd'hui. Pas mal d'interrogations sur les placements d'autres animaux, et là on va parler d'animaux aussi sauvages, cela dit, les orques du Maryland d'Antibes, les dauphins du Maryland d'Antibes. Les décrets n'ont pas été pris et on ne sait pas surtout où placer ces animaux. Il était question de les envoyer au Japon, on a fait machine arrière.
C'est le problème parce que effectivement là on est confronté à la même situation pour les animaux sauvages des cirques. Mmh. Alors pour les cétacés, normalement les parcs ont jusqu'à décembre 2026 pour trouver des placements, mais là ils accélèrent les choses pour mettre la pression également. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément des places pour tout le monde. Pour les animaux de cirque, par exemple, où là, on parle de centaines de félins, donc ce n'est pas simple. Le décret, effectivement, sanction pour la reproduction, la vente, l'achat d'animaux n'a pas été publié. C'est-à-dire, et on le voit, des jeunes lions qui naissent encore dans les cirques. Et puis, il y a un deuxième volet qui est l'accompagnement des circassiens, quand même à hauteur de 35 millions d'euros qui avait été prévu par le gouvernement.
Absolument.
Et qui n'est toujours pas mise en œuvre parce que le décret n'a pas été publié et le ministère de l'Agriculture qu'on a rencontré, de l'écologie qu'on a rencontré il y a quelques semaines, nous a dit on va pas sortir ça tant que, on va pas sortir le décret sanction tant que le décret d'accompagnement n'est pas publié. Sauf que ni l'un ni l'autre ne sont publiés et on va arriver à une échéance très courte.
Ça fait partie des textes qui sont comme ça reportés.
Ouais. Et là aussi.
À l'aune de ces changements d'équipe aussi, vous le
exactement, ainsi. Exactement. Parce qu'on nous avait dit non, les décrets c'est bon, ils sont à signature. Sauf que, la ministre, elle change. Bon, là, il y a un maintien de la même ministre. Donc on espère qu'on va pouvoir aboutir parce que organiser l'accueil de félins, ça ne s'improvise pas. Mmh. Et là aussi, il faut aussi de la bonne volonté des services décentralisés. On a un programme, un projet dans les Landes et les services vétérinaires font blocage. On ne sait pas pourquoi, c'est absolument pas justifié, mais un sanctuaire pour félins notamment qui permettrait d'accueillir certains des cirques.
Comptez en tout cas sur la persuasion des fondations comme la Fondation 30 millions d'amis pour faire pression et puis pour tenir ces dossiers. Parlez-nous d'un engagement capital là pour l'année 2025 qui vient. On sait que la Fondation aide énormément de refuges avec un budget d'aide de 6 millions d'euros chaque année. Bon, c'est un budget que vous tentez de sanctuariser, mais quelles sont vos urgences, j'allais dire, à la Fondation 30 millions d'amis?
Alors bon, il y a effectivement l'action de terrain pour accompagner tous ces refuges. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent on oppose les grandes structures aux petits refuges locaux qui ont des difficultés. Mais justement, le rôle aussi de la Fondation 30 millions d'amis, outre ses activités qui lui sont propres, c'est de soutenir ces associations locales qui manque de moyens. Donc effectivement, vous venez de le dire, il y a un budget de 6 millions d'euros, quand même, c'est considérable, dont à peu près la moitié qui est consacrée aux chats errants pour gérer les populations de chats errants par des stérilisations et en accord avec un millier de mairies. C'est le plus gros budget au niveau national. Mais c'est vrai que ça permet de soutenir ces petits refuges en difficulté avec les dons qui sont perçus auprès de la Fondation 30 millions d'amis et dont les donateurs, d'ailleurs, bénéficient d'une réduction fiscale de 66%. Donc c'est intéressant, ça permet aussi d'aider toutes ces structures. Mais indépendamment des aides proprement dites, on travaille beaucoup sur le volet européen parce qu'il y a beaucoup de textes qui doivent sortir. Il y a un règlement sur les chats et chiens qui a été présenté en fin d'année dernière, un règlement sur les transports d'animaux qui a été aussi présenté en fin d'année dernière et qui est en cours de discussion au Parlement européen. Et donc on travaille beaucoup sur ces deux textes-là. Pour les chats et chiens, c'est essentiellement les conditions d'élevage, mais aussi d'identification. Il n'y aurait pas un fichier commun, mais chaque pays devrait avoir un fichier d'identification et qu'on puisse avoir des informations d'un État membre à un autre pour pouvoir savoir d'où vient un animal qui est proposé, par exemple, dans une animalerie ou à qui appartient cet animal. Voilà, une traçabilité de l'animal, c'est essentiel.
Je vous ai demandé un titre pour terminer cette séquence qui évoque un combat, qui a une résonance avec votre action, une chanson. Qu'avez-vous choisi, Christophe?
Alors, j'ai choisi un titre de Chaka Ponk parce que justement, on parlait de Paul Watson tout à l'heure et c'est des gens qui sont extrêmement engagés pour les animaux. Ils étaient samedi à la place de la République pour le retour de Paul Watson et puis ils étaient avant sensibles déjà sur cette question et ont sensibilisé aussi leurs fans dans chacun de leurs concerts et ça, ça fait partie aussi de la mobilisation.
Merci, cher Christophe. Chaka Ponk. Another Sunday morning on my own. ¿Por qué? Porque siempre dices lo mismo. Lo mismo soy de soy am. Bim bam bam, I fall down and shame again on me.
Bientôt, votre radio change de nom.
Bonjour, c'est Jean-Louis Aubert.
Bonjour, c'est Chimène Badi.
Salut à tous, c'est Michel Fugain.
Vous m'écoutiez sur France Bleu.
Vous m'écoutiez sur France Bleu.
Pendant des années, vous m'avez écouté sur France Bleu.
Vous m'écouterez maintenant.
Maintenant, vous m'écoutez.
Vous m'écouterez ici.
Ici.
En 2025.
Ici.
France Bleu devient
ici.
Vous écoutez France Bleu, il est 13h30. Laissez-vous glisser doucement dans nos après-midi en musique. On vous raconte l'actualité près de chez vous, sur votre grand média de proximité. Et je vous dis à demain, 13h, pour Ma France.
Actu locale, musique et bonne humeur.
C'est ici, ici, sur France Bleu Paris.
Bonjour tout le monde, très belle journée à l'écoute de France Bleu Paris. Sophie Nolvaux avec vous jusqu'à 16h. Heureuse de vous retrouver après une belle fête de Noël, je l'espère pour vous en tout cas. C'est jeudi et après toutes ces réjouissances, eh bien on est content, mais on est aussi fatigué, pas vrai? On va compter sur la musique de France Bleu Paris pour nous requinquer, nous remettre en forme. Et dans moins de 10 minutes, on accueille Cissy Peniston. Avec cette chanson qui va nous ambiancer, on va aller en 1991 en sa compagnie pour Finally. Allez, vous allez pousser le volume si vous êtes en voiture. Julien Doré arrive également avec la reprise des L5. Mais pour commencer cette première demi-heure, Joe Dassin, il était une fois nous deux sur France Bleu Paris. Excellent jeudi ensoleillé.
Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour. Le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux. Il était une fois un motel sur la route du port, un soir banal. Le client, un veilleur qui s'endort sur son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé des chambres à part. On n'ose pas. À 18 ans à peine. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour. Le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. On a pris le 14 au hasard, un peu gêné. Puis ta robe a glissé dans le noir, on s'est aimé. Quand plus tard, garçon est venu nous apporter deux
café d'un sourire entendu. Tu t'es caché, il n'a pas vu que tu pleurais. L'enfance qui s'en allait. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était. C'était nous deux, il était une fois. Souviens-toi, souviens-toi, le chemin des amours. C'était, il était une fois, nous deux. Souviens-toi, souviens-toi, c'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. Souviens-toi, 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 il était une fois.
Ici, ici, c'est France Bleu Paris.
Et on reconsidère les choses. Je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose. Descends-moi de mon piédestal. Je ne suis pas celle qu'on dispose en jolie statue de cristal. Je préfère quand tu nous opposes. Sois mon rival. L'amour a tellement de visages. À toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages toutes les femmes de ta vie en moi réunies? Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, glamour ou sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. Je ferai semblant de te croire, quand parfois je sais que tu mens. Je ne ferai même pas d'histoire si tes ex reviennent en courant. Je suis aussi ton oxygène quand tu as le souffle coupé. Une histoire pour s'éloigner des contes de fées. L'amour a tellement de visages. À toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages toutes les femmes de ta vie en moi réunies? Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, glamour ou sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. Celle que je suis sans l'armoi, tu vois. Si tu fermes les yeux, regarde en toi. Regarde un peu tout ce que tu perds. La femme de ta vie en moi réunie. Ton âme sœur, ton chéri, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, glamour ou sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie.
local, musique et bonne humeur.
C'est ici.
Ici.
Sur France Bleu Paris.
Paris, 13h42, on écoutait Cissy Peniston avec ce tube du tout début des années 90, Finally. Ici l'infotrafic en temps réel sur France Bleu Paris. Et comment ça se passe sur nos routes franciliennes? Pour le moment, 152 km de bouchons cumulés à vous signaler. Et attention à ces accidents survenus à l'ouest de la capitale, notamment sur l'A13 dans le sens Paris-Province, de Forêt de Marly vers Orgeval. Deux voitures sont impliquées sur deux voies. La voie de droite est fermée. Comptez plus ou moins 25 minutes entre Roquencourt et Orgeval. Au sud-est de Paris, accident survenu sur la N104. On extrait intérieure de Saint-Germain-lès-Corbeil vers Saint-Pierre-du-Perret. Attention, 5 véhicules sont impliqués sur les deux voies. La voie de gauche est fermée. Et puis, au sud de Paris, il y a tout juste quelques minutes, vient de se produire un troisième accident. Accident sur la N104 extérieure de Saint-Michel-sur-Orge vers Sainte-Geneviève-des-Bois. Deux véhicules sont impliqués sur deux voies. La voie de droite est fermée. Soyez évidemment extrêmement prudent. Si vous voyez d'autres choses, un incident de parcours, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 30 10 10. On fait la route ensemble et puis on fait un petit point sur vos conditions de circulation toutes les 15 minutes sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, numéro 1 sur l'infotrafic.
C'est quelque chose que vous avez peut-être dit à vos proches hier, avant-hier, lors du réveillon, lors de cette journée de Noël. Et ça fait toujours du bien de le dire et de l'entendre aussi. Voici Michel Polnareff avec Je t'aime sur France Bleu Paris.
Quand tu dors près de moi, j'ai le cœur au bout des doigts. Je t'aime. Quand tu pleures dans mes bras, j'ai les yeux qui pleurent pour toi. Je t'aime. Je
Bleu Paris, magnifique chanson signée Michel Polnareff. Je t'aime et nous aussi, on vous aime et on est là pour vous, Sophie Nolvaux, avec vous jusqu'à 16h sur France Bleu Paris. Et on va retrouver quelqu'un d'autre, hein, Muriel Jourdan, un petit peu avant 14h. On ira grâce à elle dans les coulisses du café mythique de Saint-Germain-des-Prés. Les deux magots, ce sera après Claudio Capéo sur France Bleu Paris.
Chaque jour, dans Vie d'artiste, Johan Guérin vous raconte les coulisses des plus grandes chansons.
Et si je vous dis Saint-Germain-des-Prés, Suzette, vous me répondez Danny Briand. Le crooner revient avec un nouvel album. L'occasion de vous dévoiler cette semaine les coulisses de sa carrière.
Vie d'artiste sur France Bleu ou francebleu.fr, ce soir dès 19h.
France Bleu, partenaire de la grande soirée du 31 de Paris. Stéphane Bern vous donne rendez-vous à travers les lieux emblématiques de la ville de Paris. Au programme, de nombreux artistes, avec notamment David Hallyday, Santa, Danny Briand, les danseuses du Moulin Rouge, et à minuit, le feu d'artifice grandiose de la ville de Paris embrasera le ciel des Champs-Élysées pour ouvrir l'année 2025. La grande soirée du 31 de Paris, mardi à 21h10, en direct sur France 2 et France.tv, avec France Bleu.
Ici,
c'est France Bleu Paris.
Il te dit qu'il t'aime, que tu es belle. Il te caresse avec des épines de rose. Il te promet la lune et te promet le miel. Il te dit que c'est ta faute quand il explose. Il te fait du tort, il te fait du mal. Mais l'amour à mort n'a rien de normal. Il sait qu'il a tort, il sait que t'as mal. Mais l'amour à mort balance au vent toutes ses lettres, tes regrets chaque fois. Tout est calme avant la tempête. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Passer l'amour, ouais, passer le charme. Comment faire quand tu es devenu sa chose? Que dire quand l'oreiller est devenu une arme? Quand ta liberté est une porte close? Quand les mots sont forts et les mots sont durs? Quand l'amour à mort devient un coup sûr? Et tout l'or du monde n'est pas une armure? Quand l'amour a tort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tu penses aux promesses qu'il t'a fait. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Se lève et l'horizon est bien dégagé. Il restera des traces, mais tu seras enfin libéré. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller.
Jeudi 26 décembre, merci d'écouter France Bleu Paris, c'était Claudio Capéo avec T'en aller et Accès privé avec notre reporter Muriel Jourdan dans les coulisses du café Les Deux Magots qui a ouvert ce café en 1885 tout de même. Et la maîtresse des lieux, c'est Catherine Mativa. L'affaire est aux mains de sa famille depuis plus d'un siècle. Ce café-restaurant mythique de Saint-Germain-des-Prés a même décerné en septembre dernier son 90e prix littéraire. On vous explique tout dans Accès privé.
Il existe aussi le prix littéraire des deux magots, un prix créé en 1933, le jour de la remise du Goncourt André Marot. C'est quand même marrant de créer un prix le jour où on remet le Goncourt.
La création du prix des deux magots en 1933 est en fait un prix créé en réaction au fait que Malraux ait eu le Goncourt pour la condition humaine. Et 13 amis qui étaient présents dans la salle décident effectivement de remettre le prix. Et je vais vous emmener dans la vitrine, à l'entrée de la salle, où vous avez certains ouvrages qui sont exposés, notamment le premier prix des deux magots de 1933, en l'occurrence pour Raymond Queneau, Le Chien d'An. Je vous le montre, il est juste en vitrine.
Ah oui, il y a une vitrine juste là, à côté de l'entrée.
À l'époque, lors de la création du prix des deux magots, donc en 1933, ce sont les 13 amis journalistes, écrivains présents dans la salle, qui chacun mettent 100 francs de l'époque pour doter le prix. Par pneumatique, ils préviennent Raymond Queneau qu'il a le prix. Mon grand arrière-grand-père apprend ça par la presse. Pas très content qu'il y ait un prix qui était décerné dans son établissement sans qu'il en soit informé. Donc dès le lendemain, il décide de doter à l'avenir le prix des deux magots, qui s'appellera donc prix des deux magots et qui est un des emblèmes forts de la maison de Magot, puisque nous en sommes au 90e prix cette année, et qui a eu peu d'années où il n'a pas été décerné. Alors, c'est surtout des années de guerre, mais même pendant la guerre, par exemple, Olivier Séchant l'a eu en 42. Olivier Séchant étant le père de Renaud, par exemple. Vous avez Albert Simonin, touché pas au Grisby. Vous avez, sauf erreur, en 78, Sébastien Japrisot pour L'été meurtrier. La chambre des officiers de Marc Duguin.
Le prix des deux magots, créé en 1933 pour concurrencer le prix Goncourt, jugé trop académique, est ainsi l'une des plus anciennes distinctions littéraires de France. Aujourd'hui, il est présidé par Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire.
Je pense que c'est important qu'il y ait le Goncourt qui est très prestigieux et qui est certainement le prix le plus fameux dans le monde, mais je trouve que la littérature soit aussi décernée dans des cafés, que la littérature est partie liée avec la vie des cafés, avec la vie parisienne. C'est une très belle tradition complémentaire de l'autre. Maintenant, beaucoup de cafés ont leur prix. Ça veut dire que ce mariage, ces noces très heureuses entre la littérature et les cafés, c'est quelque chose de parisien et c'est quelque chose qui fonctionne bien.
On poursuivra la visite des coulisses des deux magots demain sur France Bleu Paris. Vous pouvez en tout cas avant retrouver tous les podcasts d'accès prévu sur l'application ICI ou encore sur le site ici.fr. Dans 4 minutes, il sera 14h. Et là, on va retrouver Daniel Balavoine, Nanette Workman pour cette chanson issue de l'opéra rock Starmania. Voici Quand on arrive en ville sur France Bleu Paris.
Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honneurs. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'être. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors préparez-vous pour la bagarre quand on arrive. La ville souterraine est plongée dans le noir. Les gens qui s'y promènent ressortent sur tes brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en ville, nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant.
Nous étions en 1981 avec ce tube « Quand on arrive en ville », Daniel Balavoine et Nanette Workman à l'instant sur France Bleu Paris. On pense à vous, hein, si vous êtes au volant de la voiture, si vous êtes au travail, courage à vous.
Le 6 janvier 2025, France Bleu devient ici, plus que jamais connecté à notre région. Ici Paris-Île-de-France, le nouveau nom de votre radio locale.